Aujourd'hui, nous abordons le numéro 9. Number 9. Pour ceux qui ont connu l'époque des Beatles, c'était un chant célèbre fait de juxtaposition de sons et de choses. Et ici, dans Néhémie, chapitre 9, nous allons voir aussi beaucoup de choses qui, si nous le résumons, nous montre l'attitude que nous devons avoir dans nos cœurs pour que Dieu puisse accomplir un réveil. On aime bien être réveillé après une bonne nuit de sommeil, de bonheur. Mais souvent, on oublie que pour se réveiller de bonheur, il faut se coucher tôt. On a l'habitude de prier ensemble le mardi matin, une réunion des hommes à 7 heures du matin. Et c'est vrai que parce que c'est une réunion qui plaît au Seigneur, l'ennemi fait tout pour que nous couchions très tard. Et c'est généralement le soir où je me couche le plus tard de la semaine, et mes compagnons de prière, je crois que ça leur arrive aussi. L'ennemi ne veut pas qu'on vienne prier le Seigneur de bonne heure, donc il fait tout pour qu'on ne se réveille pas. Et de la même façon, il fait tout pour qu'on, en tant qu'Église, on ne se réveille pas. Il nous endort dans des traditions, dans des routines, dans des choses qui donne l'apparence de la religion, mais qui n'ont pas la réalité de la relation avec Jésus-Christ. Et ce chapitre 9 est un chapitre assez long. Nous allons quand même le lire parce qu'il y a plein de bonnes choses. Et on va voir des attitudes que nous devons cultiver pour que Dieu puisse accomplir ce réveil. On n'est pas toujours très clair au niveau de l'expression réveil, au sens spirituel. On pense que le réveil, c'est lorsque des milliers, des centaines de milliers ou plus de personnes viennent à Dieu. En fait, il faut distinguer entre réveil et évangélisation. Le réveil, ça s'adresse à des gens qui se sont endormis. Donc, ça s'adresse à nous, les chrétiens, qui n'avons plus le zèle, la fraîcheur de la relation avec Jésus-Christ. Les milliers de personnes qui viennent à Christ, c'est le fruit de l'évangélisation. Mais c'est vrai que si l'Église n'est pas réveillée, l'évangélisation va produire des personnes qui vont être comme des morts-nés. Encore une fois, on se joint à la tristesse de la famille de Carole pour ce bébé qui est décédé. Et c'est un peu ce qui se passe lorsque des chrétiens non réveillés accueillent des gens qui ont été interpellés par le Seigneur. Donc ça va ensemble. C'est bien de prier pour l'évangélisation, mais il faut prier pour le réveil de l'Église. Il faut que l'Église soit prête à accueillir ces nouveaux convertis. Il faut que l'Église soit vivante, soit vibrante, qui ait de la joie, qui ait surtout la présence du Seigneur, de son Esprit Saint, et que la parole de Dieu soit annoncée, que ce soit elle qui nourrisse le réveil et ses nouveaux convertis. Lisons ensemble, nous allons procéder par petits passages. On va lire verset 9, chapitre 1 à 6. Le 24e jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent couverts de sacs et de terre pour un jeûne. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. Lorsqu'ils furent debout à leur place, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Shabnia, Sherebia, Odia, Shebania et Pétaïa, dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée, qui a fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. À tout cela, tu donnes la vie et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Nous voyons ici un rappel, une évocation de la grandeur de Dieu. Ce passage, entre parenthèses, c'est la plus grande prière, la plus longue prière de la Bible. Lorsque nous nous réunissons plutôt le mardi matin, nous essayons de parcourir la Bible en remarquant des passages sur la prière ou des prières que l'on trouve dans la Bible. Généralement, ce sont quelques versets que nous lisons ensemble, mais là, c'est tout un chapitre, un long passage. Et on voit dans cette première partie le rappel de la grandeur de Dieu. Lorsqu'on pense à la grandeur de Dieu, on se rappelle de notre petitesse. C'est toujours par contraste qu'on apprécie ces choses. Et lorsque Dieu augmente à mes yeux, je vais diminuer à mes yeux. Et c'est une très bonne chose. Dieu est Dieu et moi je ne le suis pas. Ça, c'est le commencement de la sagesse, de savoir que Dieu existe et qu'il est tout puissant. On voit un rappel au verset 6 que c'est lui qui a tout créé, tout seul. Il n'a pas eu besoin de l'évolution, il n'a pas eu besoin de Darwin, il n'a pas eu besoin de la science moderne, il n'a pas eu besoin de la génétique. Non, tout ça, c'est des choses qu'on recherche. S'il y a des chercheurs en science, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Ce n'est pas le prémisse même, le présupposé qui est impliqué dans toute recherche scientifique, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Et lorsque ces mêmes soi-disant chercheurs vous disent qu'on est le fruit du hasard, ça veut dire qu'à la limite, ils ne recherchent rien du tout. Si nous sommes le fruit d'un accident cosmique, à quoi bon aller chercher qui a tort et qui a raison au feu rouge cosmique ? Je dis ça parce qu'on avait un jeune cousin qui vivait à Nice et il avait entendu que la science moderne disait que nous étions le résultat du hasard, d'un accident cosmique. Et un jour, alors qu'il se trouvait rue les Pentes, il avait vu deux voitures se rentrer dedans. Il avait demandé à son papa, « Alors papa, il y a quelqu'un qui est né de cet accident ?» C'est aussi stupide de penser que la science cherche à trouver les causes du hasard cosmique. La science, par définition, la méthodologie scientifique, c'est de reproduire en laboratoire des phénomènes que l'on peut étudier à loisir et les reproduire et être capable de les reproduire. La création échappe à ce champ de connaissance. La création, ça n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire en laboratoire. Vous entendrez dire que les scientifiques ont créé des molécules. Ils n'ont pas créé, ils ont réassemblé des molécules. Ils ont pris ce qui existe et ils l'ont transformé avec des moyens que Dieu leur donne. Il a fait les cieux des cieux. Ce matin, j'ai mis en ligne sur le site Facebook de Calvary Chapel Nice une vidéo qui est un résumé, un raccourci de la vue de la Terre dans la station spatiale. Et on voit la Terre, comment elle est belle, comment elle est bleue, comment les lumières brillent la nuit, comment les côtes sont dessinées. Le psalmiste était émerveillé par la création de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'été est justement un moment formidable pour ouvrir les yeux à la création. Il fait chaud dans la journée, faites la sieste, et la nuit, regardez les étoiles. Allez sur une colline un peu en dehors du centre de Nice où la pollution lumineuse va vous empêcher de voir la beauté de cette création. Laissez-vous émouvoir par la beauté de la nature, par la beauté de sa création. N'adorez pas sa création, adorez le Créateur, c'est lui qui est digne de louange. Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous sommes prompts, nous sommes prêts, nous sommes rapides à admirer le dernier champion du monde de football, le dernier maillot jaune du Tour de France. Que l'on bénisse son nom glorieux d'éternité en éternité, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Nous avons des raisons de mettre toute notre énergie à l'admirer parce qu'on ne sera jamais déçu en lui. On admire tel artiste et on s'aperçoit en fait qu'au bout de quelques années, il avait pris les chansons d'un autre ou il avait triché. Ou peu importe, nos admirations humaines sont mal placées. Et comme je le disais, lorsqu'on voit la grandeur de Dieu, ça nous rappelle notre petitesse. On voit combien on est insignifiant. Et ça nous conduit à une attitude d'humilité, une attitude de cœur brisé, à une attitude de repentance. Ces Israélites, ils se recouvraient de sacs et de terre. C'était une façon publique d'exprimer leur petitesse. Au lieu de mettre des beaux vêtements, des choses qu'ils avaient achetées en solde à H&M, ils mettaient des sacs de patates. Ils se recouvraient de terre pour montrer que leur apparence, tout ça, ça ne comptait pas. Mais ce qui comptait, c'était la gloire de Dieu. Et on voit que devant cette grandeur de Dieu, ils ont une attitude de repentance. C'est d'avoir un cœur brisé qui nous fait du bien. Lorsque nous voyons la grandeur de Dieu, on le voit dans la Bible avec Ésaïe, le prophète Ésaïe, lorsque le roi Ozias a disparu, que ses yeux ont pu se détourner de cette grandeur humaine, il s'est tourné vers la grandeur de Dieu et il s'est dit qu'il n'était même pas digne de voir Dieu. Pierre, lorsque Jésus lui parlait, il disait, je ne suis pas digne de te voir. C'est une bonne chose de ressentir notre indignité. Le danger, c'est lorsque nous pensons que nous sommes des propres justes, lorsque nous pensons que nous méritons l'amour de Dieu. Parce qu'après tout, je vaux bien mieux que mon voisin ou que ce SDF qui vit dans l'alcool et dans la corruption. C'est lorsque je suis conscient de mon péché, que j'ai le cœur brisé, le cœur contrit, que Dieu va m'accepter. David s'est effondré devant Dieu en reconnaissant qu'il avait péché. Et c'est là que Dieu l'a béni. Dans le psaume 51, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. 51:19. Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Plus loin, au verset 32, il avait remercié Dieu de son pardon. Psaume 32, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Autrement dit, tu m'as pardonné. Dieu veut qu'on s'humilie devant lui. C'est un thème qui revient de façon constante dans toute la Bible, que ce soit le Nouveau, l'Ancien Testament. Jacques lui-même disait, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'était le proverbe 3:34, c'est ce qu'on retrouve dans 1 Pierre 5:4, si vous avez besoin d'aller vérifier vous-même. La bonne attitude, c'est l'attitude de repentance. Paul disait même que c'est dans la démonstration de cette repentance, plutôt que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Romains 2, 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience ? Sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est lorsque je m'aperçois que Dieu est insondable dans son amour, dans son pardon, que j'ai envie de lui demander pardon, que mon cœur est sincèrement triste des péchés que je commets. Il faut que cette humilité, elle laboure nos cœurs. Lorsque vous semez des fleurs, j'espère que vous ne semez pas vos graines dans un vase en terre cuite, sans mettre de terre. Dans votre jardin, vous allez mettre les graines, j'espère, pas sur le ciment, mais sur la terre que vous aurez au préalable ouverte. C'est quelque chose que Dieu nous dit de faire. Dans Osée, le prophète Osée, il nous dit de, en anglais c'est « break up our fallow ground », c'est-à-dire de briser, de labourer notre sol. Dans Osée, le prophète, et Jérémie 4 aussi, C'est un thème qui revient. Défrichez-vous un champ nouveau. Et l'autre passage qui parle de ça, c'est Jérémie 4, 3. L'idée, c'est qu'on ne va pas planter dans un terrain qui n'est pas préparé. Et la graine, nous savons que c'est, elle est représentée par la parole de Dieu, qu'il n'y a pas de réveil sans la parole de Dieu, sans la vérité de Dieu, mais pour que cette parole, elle accomplisse son œuvre, et qu'elle donne du pain à celui qui a faim, il faut que il y ait une humilité, un cœur contrit. Et c'est quand nous avons le cœur tendre que nous pouvons recevoir l'amour de Dieu. Lorsque notre cœur est dur, lorsque notre nuque est raide, que nous sommes dans l'orgueil, dans l'arrogance, il n'y a pas de joie dans nos cœurs. L'attitude, encore une fois, il n'y en a pas 50 à avoir. On va en voir d'autres, mais je veux dire, au niveau entre choisir la fierté et l'humilité, la repentance, il n'y a pas photo, comme on dit. Il n'y a pas photo. Lisons la suite, juste une parenthèse. Il se sépare des étrangers. Autrement dit, ce réveil, il s'adresse à ceux qui connaissent déjà leur Dieu. Lorsque Dieu veut réveiller, encore une fois, c'est pas les païens qui va réveiller, il va les éveiller, mais c'est nous qui réveille. Il trouve leur nourriture, les graines, dans la livre de la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'était les 5 premiers livres, la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome qui rappelaient les 4, la loi, encore une fois. La loi était donnée une deuxième fois pour qu'on n'ait aucune excuse de l'oublier. Et c'est avec ça que Dieu suscitait le réveil. Je me souviens, lorsque j'étais jeune catholique, on m'avait donné une Bible et j'avais commencé à la lire, plein de zèle. On ne nous encourageait pas à la lire, mais j'avais résolu de la lire. Et je dois dire que mon zèle s'était éteint dans le Lévitique. Là, j'avais rendu les armes, j'avais laissé tomber. Jusqu'à ce que des années plus tard, 20 ans plus tard, je rencontre l'église de Wayne et que je l'entende expliciter la parole et que je retrouve une soif, un désir de connaître la parole de Dieu qui est la vérité. Mais le passage des Lévites, lorsqu'il vous est expliqué, c'est un merveilleux passage, plein de richesses. Mais en première lecture, c'est souvent très difficile. C'est pourtant ces passages que les Esdras et les Lévites utilisent pour susciter le réveil. La loi de Dieu est parfaite. C'est pas quelque chose qui est dépassé. Le danger avec la loi, c'est que les pharisiens et beaucoup de personnes aujourd'hui encore pensent que c'est en essayant de vivre et de respecter la loi que on va être digne de l'amour de Dieu. La loi, elle nous montre qu'on est incapable de mériter son amour. Parce que la loi, c'est pas seulement une fois de temps en temps, c'est dès que je casse un maillon de la chaîne de justice de la loi, j'ai tout à refaire. Ou c'est plutôt fini pour moi. J'ai pas respecté la loi parfaitement. Dieu veut que nous soyons parfaits. Jésus nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Oh, c'est trop difficile ça, c'est pas possible.
Exactement, vous avez tout compris, c'est pas possible tout seul. Mais par la justice que Jésus peut vous imputer, veut mettre à votre compte, vous pouvez être parfait aux yeux de Dieu et entrer en sa présence pour l'éternité. pendant un quart de la journée. Soit c'était une journée de 12 heures, soit c'était une journée de 16 heures, soit c'était 3 heures d'étude de la parole, soit c'était 4 heures d'étude de la parole, et suivi de 3 heures de confession des péchés, ou 4 heures de confession des péchés.
On n'a pas le temps aujourd'hui
de s'adonner à la lecture de la parole, à l'étude de la parole. Verset 7, avançons un peu, sinon on va rester ici 3 ou 4 heures. Ça vous gêne? Je plaisante. Je devrais pas, ça ne devrait pas être une plaisanterie, mais je sais que même pour moi ça l'est, et pour nous. C'est toi, éternel Dieu, verset 7, qui a choisi Abraham, qu'il a fait sortir d'Ur des Chaldéens et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, tu as conclu l'alliance avec lui pour donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Yébousiens, des Girgasiens, des Parisiens, et tu as tenu ta parole, car tu es juste. C'était pour voir si vous suiviez. Tu as vu la détresse de nos pères en Égypte, tu as entendu leurs cris près de la mer des joncs, tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle audace il les avait traités, et tu t'es fait un nom comme tu l'as encore aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut des cieux et tu leur as donné des ordonnances droites, des lois de vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, des commandements, des prescriptions et une loi. Des cieux que tu leur as donné du pain quand ils avaient faim, tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif et tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais eux et nos pères furent présomptueux et raidirent leur nuque. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils leur refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur nuque et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés. Même quand ils se sont fait un veau d'or en métal fondu, en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte », et quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages. Ils prennent maintenant le temps de se rappeler la bonté de Dieu de façon concrète dans leur vie. Pour avoir, on a dit qu'il y avait une attitude de cœur contrit, d'humilité, de repentance, il faut aussi une attitude de gratitude. L'attitude gratitude dont j'essaye de parler souvent parce qu'elle me semble essentielle pour notre vie de chrétien, pour comprendre Dieu, mais aussi pour lui rendre grâce, pour le remercier de tous ses bienfaits. Nous vivons dans une société où l'un des moteurs de l'économie, c'est de nous faire désirer quelque chose que nous n'avons pas. On n'a pas vu encore des panneaux lumineux, Jean-Claude Decaux, disant que vous pouvez très bien vivre avec votre iPhone 3. Votre iPhone 4 est déjà génial. Contentez-vous. C'est un mot que l'on ne trouve pas dans le langage des publicistes. Le contentement. C'est un mot important dans le vocabulaire du chrétien. Il y a un grand gain dans le contentement accompagné de piété, nous disait Paul dans Philippiens. Et lorsque nous avons l'attitude de gratitude, nous cherchons à voir les bonnes choses que Dieu nous a déjà données, nous a déjà confiées, vous allez voir que vous vous sentez beaucoup plus heureux. Vous allez voir que vous allez avoir de la joie parce que vous allez réaliser toutes les bonnes choses que Dieu vous a déjà données et ça va vous rassurer, ça va vous convaincre de son amour. La plus grande attitude de gratitude qu'on doit avoir, c'est la croix de Dieu, la croix de Jésus-Christ sur laquelle il est mort. Ça doit prendre le pas dans toutes nos circonstances, sur nos peines, sur nos souffrances, sur nous rappeler qu'il y a un Dieu qui nous a aimés, qui a tellement aimé Pierre, qui a tellement aimé Marie-Christine, qui a tellement aimé chacun de nous, Sandrine, Michael, Maurice, Sébastien, qui a tellement aimé Gabriel, qu'il a donné sa vie afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, qu'ils ne soient pas complètement détruits dans, loin de Dieu, dans la souffrance éternelle, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est la première. Pour nous qui sommes au bénéfice de connaître, nous sommes au-delà de la croix. Abraham, lui, l'était avant la croix. Et c'est sa foi qui lui a été comptée comme justice, nous dit Paul dans Romains. Le fait qu'il ait cru qu'à travers lui et sa descendance, toutes les nations de la terre allaient être bénies. Jésus-Christ allait arriver, le Messie allait arriver par sa descendance. Il a mis sa foi dans la promesse de Jésus, faite par Dieu, sans savoir exactement comment ça allait se passer. Mais il a pris Dieu au mot et Dieu lui a dit « Parce que tu as la foi en ce que je te dis, tu me fais confiance, je te considère comme parfaitement juste. » Il a été, pour ainsi dire, pardonné, racheté à crédit, avant que ça se passe. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de passé, de présent, de futur, il est le même, hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Encore une fois, pour prendre l'analogie du Tour de France, pardonnez-moi si vous ne suivez pas le Tour de France, on voit des fois la vue de l'hélicoptère. On voit aussi la vue du bord de la route ou des motos et on entend les journalistes qui se disent « Où est passé Contador? On ne le voit plus !» On ne sait pas s'il est devant, derrière ou juste en face de soi. En principe, on devrait le reconnaître, bien que les journalistes des fois ne voient pas les personnes juste devant leurs yeux. Et le présent, c'est le cycliste qui est juste en face de nous. Le passé, c'est celui qui est passé il y a quelques minutes. Le futur, c'est celui qui va se pointer devant nous avant la voiture balai dans une heure, juste en train de lutter contre l'élimination, parce qu'il est trop de délai après le vainqueur de la course. Et puis, il y a l'hélicoptère. Il y a l'hélicoptère de France 2 ou France 3. Et là, on voit qu'il y a Froome, qui est en deuxième position, derrière un tel. Et puis, ah tiens, il y a Contador. Et puis, la voiture balai, on la voit aussi. En fait, l'hélicoptère, il voit tout. Il voit le passé, le présent, le futur. Dieu, c'est la même chose, entre guillemets. Toute proportion gardée. Mais pour Dieu, il voit le passé, le présent, le futur comme un éternel présent. C'est très important de réaliser cela. Et cette foi qu'Abraham avait dans sa promesse, c'est ce qui lui a permis d'être justifié, déclaré juste par Dieu. Il n'avait pas encore vu la foi, mais Dieu savait qu'il avait foi dans ce qui allait arriver. Il rappelle tous les miracles qui ont été faits. Pas tous, mais certains des plus grands miracles. Comment Dieu les a aidés à se former en une nation. Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Avec la foi, tout est possible. Il rappelle donc toute la façon dont il les a sortis d'Égypte. Comment il leur avait promis, dans l'alliance qu'il avait faite avec eux, de donner à sa descendance une terre, la terre promise. Il les avait guidés le jour, la nuit. Il leur avait donné, par l'intermédiaire de Moïse, sa loi. Il leur avait donné le sabbat, un jour de repos, pour penser à Dieu et à sa bonté. Quand ils avaient des besoins de nourriture, il a pourvu. Quand ils avaient soif, il a pourvu. Et on voit combien il y a répétition entre les versets 7 à 18, combien c'est répété, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait, Dieu faisait tout, Dieu fait tout pour nous. Et puis il y a les mais de la parole de Dieu. Dans ce cas-ci, ce sont les mais qui consultent la rébellion des enfants d'Israël. Verset 16, mais eux et nos pères furent présomptueux et raidirent leur nuque. Pas d'humilité. Ils n'ont pas écouté. Ils auront refusé d'obéir et ils ont oublié les merveilles de Dieu. Et puis il y a le mais qui gagne. C'est le mais de Dieu. M-A-I-S. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, verset 17, qui est compatissant, qui fait grâce, qui est lent à la colère, riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés. Alléluia ! Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous nous rebellons contre lui, lorsque nous avons une attitude d'orgueil, d'indépendance vis-à-vis de lui, même lorsqu'ils se sont fait des idoles. Même lorsque vous avez des idoles dans votre vie, lorsque des péchés sont devenus tels qu'ils vous enchaînent, que vous devez avoir presque un miracle pour être libéré, Dieu les dirige. C'est important de réfléchir sur la bonté de Dieu, de réfléchir sur ce qu'il a déjà fait dans vos vies. Cette attitude de gratitude. Cet été, passez une matinée ou quelques heures un matin à écrire toutes les bonnes choses que Dieu vous a données. Et vous allez voir que vous n'allez pas y arriver. Vous pouvez aller aussi, au lieu de lire la Bible et de prier, de méditer, vous pouvez aller regarder le dernier catalogue arrivé dans votre boîte aux lettres ou aller voir sur Gmail votre dernière publicité sur le dernier Apple, le dernier gadget, les derniers vêtements qu'il faut avoir pour être cool. Et je vous garantis que c'est la première lecture qui vous fera du bien. Vous le savez, je le sais, et pourtant combien de fois nous négligeons la parole, nous négligeons de réfléchir sur la bonté de Dieu. Il a formé la nation, il les a aussi dirigés. Dans ta grande compassion, verset 19, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider de jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu n'as pas refusé ta main à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert. Et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. Tu leur as livré des royaumes et des peuples pour leur donner en partage des provinces frontalières. Ils ont pris possession du pays de Sion, du pays du roi de Heshbon et du pays d'Og, roi de Bazan. Dieu les a dirigés. Dieu vous dirige. Dieu vous dirige en vous donnant sa parole, mais aussi son bon esprit. Nous qui sommes des pères loin d'être parfaits, nous ne donnons pas des scorpions à nos enfants lorsqu'ils nous demandent des sardines ou des steaks ou des happy meals. Tiens, fiston, voilà quelques scorpions. Ou, non, je ne vais pas te donner du pain croustillant, prends ces galets plutôt. Non, nous leur donnons de bonnes choses. À plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux va donner l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. L'Esprit Saint que Dieu nous a envoyé après que Jésus soit remonté aux cieux, un réconforteur, un consolateur de même nature que lui. L'Esprit Saint, ce n'est pas une force magique. Que la force soit avec vous.
Oh, Star Wars.
Non, c'est une personne que l'on peut attrister, que l'on peut réjouir, qui nous reprend, qui nous accompagne, qui vit avec nous, qui est en nous si nous sommes chrétiens. Eux avaient des raisons de mécontenter Dieu en refusant d'écouter son bon esprit, mais ils avaient au moins l'excuse que le bon esprit n'était pas en eux. Nous, dès que nous péchons, dès que nous nous laissons entraîner dans le péché, c'est à son corps défendant, l'Esprit Saint, que l'on va commettre le péché. Il faut lui dire, chut, tais-toi, laisse-moi faire, je veux pas t'entendre. Il est là qui nous montre la nature de nos actes, et c'est à lui qu'il faut répondre, pas à notre vieille nature, ce qu'on appelle la chair, qui s'oppose à lui. Galates 5, 17 nous dit que l'esprit est opposé à la chair et la chair opposée à l'esprit, de sorte qu'on ne peut pas faire ce qu'on voudrait. Nous sommes un champ de bataille, que nous le voulions ou non, il y a un combat qui se passe en nous. Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est toute une autre étude. Mais savoir que nous sommes dirigés, que nous pouvons faire confiance à Dieu si nous lui demandons de nous diriger. Souvent, lorsque nous faisons des erreurs que nous regrettons, c'est parce que nous n'avons pas cherché à demander à Dieu ce qu'il voulait pour nous. Il les a aussi corrigés. Verset 23, « Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils en prendraient possession. Et les fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu as humilié devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les as livrés entre leurs mains avec le roi et les peuples du pays pour qu'ils les traitent à leur gré. Il a continué à les bénir. Ils s'emparèrent de villes fortifiées et d'un sol fertile. Ils prirent possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et se rassasièrent, s'engraissèrent et vécurent dans les délices par ta grande bonté. » Dieu a multiplié les bénédictions pour eux. Ça me rappelle ce verset qui dit « Ouvrez grand votre bouche et je vous nourrirai, dit le Seigneur. » Là, ils sont rentrés dans le pays, ils ont remporté des victoires fameuses. Je me souviens à l'époque, on avait étudié les victoires sur Sihon, le roi de Heshbon, et sur Og, roi de Bazan. Ça remonte à un moment, puisque c'était en 98, 99, 2000, on se rappelait des victoires de l'équipe de France en football. Coupe du monde et champion de l'Europe. C'était des grandes victoires qu'il est bon de se rappeler. Il voulait qu'il se rappelle de ces victoires et de la façon dont il les avait bénies. Ils avaient juste eu à entrer, aller dans les villas, prendre des fruits dans les oliviers qui avaient été plantés avec du labeur, un labeur difficile et dur. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de manger, de se rassasier, de s'engraisser. Oh, les pauvres. On vit à une époque où il est cool d'être mince, moins cool d'être en surpoids, comme on dit. À l'époque, c'était plutôt l'inverse. Tout le monde était par faute de nourriture. On ne jetait pas la nourriture à l'époque. Il fallait travailler durement. Et un signe de bénédiction, c'était de manger à sa faim tous les jours. Et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Spirituellement, nous pouvons nous rassasier, manger la parole de Dieu, nous rassasier, nous engraisser spirituellement de plein de bonnes choses. Dieu, nous sommes au bénéfice d'être... Nous sommes au bénéfice de la révélation complète de la parole de Dieu. Le Nouveau Testament est arrivé, a été écrit, il est aussi la vérité qui nous explique, qui nous montre que l'Ancien Testament a été réalisé dans le Nouveau, que le Nouveau était caché dans l'Ancien. Nous voyons que nous avons toutes les raisons de croire aux promesses de Dieu. Nous pouvons vraiment manger, nous rassasier de la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons faire lorsque nous ouvrons la parole, c'est la recevoir comme une nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu qui a soufflé cette parole, qui est inspirée, qui est parfaite. Mais, verset 26, encore un mais, il a dû les corriger parce qu'ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils tournèrent le dos à la loi, à ta loi, tuèrent des prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et se livrèrent à de grands outrages. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande compassion, tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau ils crièrent à toi. Et toi, tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande compassion, tu les as sauvés maintes fois. Tu les as conjurés de revenir à toi, à ta loi. Mais ils furent présomptueux et n'écoutèrent pas tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre l'homme et qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. J'ai eu une épaule rebelle il y a quelque temps. Ils raidirent leur nuque et ils n'obéirent pas. Tu les as supportés de nombreuses années et tu les as exhortés par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes. Mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains des peuples des pays étrangers. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. On voit ce cycle, j'allais dire infernal. Il n'est pas vraiment infernal parce que Dieu en fait un cercle vertueux et on peut se dire, je ne comprends pas comment ces hommes ont pu ainsi mépriser la bonté, les bénédictions de Dieu. Et pourtant, lorsque nous y regardons de près, nous voyons nos vies, combien de fois nous faisons la même chose ? Dieu nous bénit, nous délivre de grandes crises. Et puis j'oublie qu'il a fait ça. Je me laisse tenter par le péché qui me dit, viens, tu vas avoir de la joie tout de suite. Oui, Dieu, je sais, mais le mensonge du jardin d'Éden est répété dans nos vies, dans nos cœurs, moment après moment. Et pourtant, Dieu ne se lasse pas de venir à nous, de venir nous rappeler à lui. Si vous êtes ici ce matin, c'est qu'il vous parle. Lorsque Tonio disait que Dieu inspire, que mes paroles soient des paroles de Dieu, j'ai dit, quel défi. En fait, c'est pour ça que j'aime bien lire la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles qui doivent vous intéresser, c'est la parole de Dieu. Et comme Esdras et Néhémie et les Lévites explicitaient la parole, tout ce que nous faisons, c'est de commenter, c'est de faire remarquer des vérités, de les mettre en relief. Mais laissez l'Esprit Saint vous enseigner. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que vous avez l'Esprit Saint. Mais il est bon, comme à l'époque, de se retrouver ensemble pour étudier la parole. Combien d'entre nous seraient aujourd'hui en train de lire le chapitre 9 de Néhémie si on ne se retrouvait pas ici ce matin à Calvary-Chapelle à Nice? J'ai bien aimé, sur Facebook hier, je voyais quelqu'un enseigne Romains 8 ce matin. Quelqu'un d'autre a dit, « Ah tiens, nous aussi on est dans Romains 8 ». C'est un grand passage, c'est un des plus beaux passages de la Bible. Mais j'aime bien le fait qu'on se trouve dans des passages un peu oubliés, un peu négligés, parce que on suit toute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on est dans ce chapitre tellement important de voir que Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il a cette grande compassion. Il pourrait décider, j'en ai ras-le-bol de ces chrétiens à Calvary-Chapelle Nice. Allez, Richter, secoue leur bâtiment, on va les aplatir comme des crêpes. Il pourrait décider de nous exterminer en un instant, en un clin d'œil. Mais il ne nous abandonne pas car il est un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. Un Dieu de grâce. Les derniers versets nous parlent de cette grâce de Dieu. Tu as été juste, 31, on va reprendre. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance, ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint, nous, nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple. Depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi et ils n'ont pas été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient dans leur royaume, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu avais mis devant eux, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens. Ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande détresse. Ils réalisent que ce n'est pas la faute à Dieu s'il se retrouve dans la situation dans laquelle il se trouve. On a trop souvent tendance, à blâmer Dieu pour nos circonstances, pour nos souffrances, au lieu de reconnaître que nous l'avons négligé, que nous sommes rebellés, que nous ne lui obéissons pas, que nous sommes esclaves du péché. Nous voici esclaves aujourd'hui. Dans leur cas, ils avaient commencé le royaume du nord avec les Assyriens, le royaume du sud avec Babylone qui avait cédé la place aux Médo-Persiens, Persiques, royaume Médo-Persique, et maintenant ils étaient esclaves. Encore, ils vivaient, mais ils dépendaient toujours, ils dominaient, ils étaient assujettis, ils devaient payer des taxes au roi de Perse, Artaxerxès. Et pourtant, ils étaient là où Dieu, dans la terre que Dieu leur avait promise. Nous aussi, si nous oublions d'obéir Dieu, si nous décidons de rejeter la volonté de Dieu dans nos vies, si nous négligeons sa parole, si nous montrons de l'orgueil, si nous montrons de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, si nous nous laissons entraîner par le péché, bien rapidement, nous devenons esclaves du péché. Nous devenons esclaves de celui qui règne sur nous. Et nous sommes dans une grande détresse. Réveil. Réveil, c'est de venir à Dieu avec un cœur brisé. C'est réfléchir sur son immense bonté dans nos vies, sur ses immenses bienfaits. C'est reconnaître notre péché. C'est aussi décider de changer. La repentance, c'est pas seulement reconnaître qu'on va dans une mauvaise direction, c'est se détourner de cette mauvaise direction, faire un demi-tour complet, un méga demi-tour pour revenir à Dieu. Et on verra la semaine prochaine, mais on peut déjà lire le verset 1 du chapitre 10. À cause de cela, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit. Sur les documents scellés se trouvent les noms de nos chefs, de nos lévites, de nos sacrificateurs. Cette prise de conscience de leur péché, cette repentance devant l'amour insondable de Dieu, devant sa patience, devant sa grâce, ça les conduit non seulement à être désolés de leur péché, mais ça les conduit à un changement et ils s'engagent à quelque chose. On sait que par nos propres forces, on ne peut pas tenir nos engagements. C'est quelque chose qu'on répète au début de l'année lorsque tout le monde prend des bonnes résolutions pour l'année à venir. On prend des résolutions tout en soulignant l'importance de compter sur Dieu pour nous aider à tenir ses promesses. Et on a une certaine méfiance à prendre des engagements avec Dieu. On dit que c'est un peu charnel. On dit que c'est compter sur notre force, sur notre vieille nature. Non, on compte sur le bon esprit qu'il nous donne pour nous accorder du discernement, pour répondre à tous nos besoins, nous guider. Mais rien n'empêche de nous engager, même par écrit. Peut-être une idée nouvelle, mais ça peut, si vous avez peur que ce soit trop légaliste, vous pouvez l'écrire comme un souhait que vous présentez devant le Seigneur. Et je me souviens quand j'étais dans l'école des disciples à Seattle, on avait, au début de l'année, Wayne nous avait demandé d'écrire quatre choses que nous voulions voir arriver dans nos vies, notamment en ce qui concernait des péchés, peut-être des péchés habituels, et de continuer, on lui avait remis ses enveloppes, pas pour qu'il les lise et sache ce qui se passait dans nos vies, mais il nous les a redonnées à la fin de l'année pour qu'on les rouvre et qu'on voit où on en était. Et d'écrire des choses, ça vous permet, c'est pour ça que c'est bien de tenir un journal, mais de le relire aussi, de voir un peu les prières que vous faites, les engagements que vous prenez. On prend des engagements pour toute chose. On vous loue un appartement, il faut signer le bail. Vous voulez un visa, on vous demande de signer des tas de documents. Et puis lorsqu'il s'agit de Dieu, non, on est dans la liberté. Ici, on voit l'exemple de gens qui s'engagent par écrit. Et je vous invite à réfléchir un peu, faire cet examen du cœur pour que Dieu me réveille, que Dieu vous réveille, qu'il nous réveille ensemble, afin que ceux qui seront touchés, et Dieu est à l'œuvre, on l'a vu, dans ces jours d'évangélisation, de rencontres dans la rue, on a vu des choses bouleversantes. On était à Grasse, dans un magasin, on a commencé à... Wayne a donné une carte de l'église en disant « Voilà une bonne église à Nice, la personne habite Gourdon, c'est un peu loin. » Mais d'ouvrir notre bouche, en quelques minutes, on était en train de prier avec cette personne en larmes. Une maman qui avait son fils en prison et qui avait une grande soif de Dieu. Si on est réveillé nous-mêmes, lorsque la personne viendra, elle va trouver la présence de Dieu, elle va être ouverte, elle va vouloir davantage. Si nous sommes arrogants, si nous sommes ici parce que nous avons des habitudes religieuses, si nous vivons dans une religiosité, elle ne s'éveillera pas au salut de Dieu. Amen.